Hors Cases, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Hors Cases, pour une émission pour la communauté LGBTQIA+, mais pas seulement, avec un sujet un peu particulier ce soir, l'homonationalisme. Avec moi, pour présenter l'émission, Valérie, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Et naturellement, on a un invité, Romain, alors j'espère ne pas faire de faute, Bismans,
c'est parfait. Bismans, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es ?
Alors, comme tu l'as assez bien dit, je suis Romain Bismans, assistant doctorant ici à l'ULB en sciences politiques, et je travaille plus spécifiquement sur les questions de genre et plus spécifiquement comment en fait les enjeux de genre structurent la compétition politique. Et je fais une comparaison entre Belgique et Espagne.
Donc Romain, sois le bienvenu.
Merci.
On va commencer par une question plus généraliste. Qu'est-ce que l'homonationalisme, ça définit quoi ? Quels sont ses objectifs ?
Alors, l'homonationalisme, c'est une fusion des notions d'homosexualité et de nationalisme qui a été conceptualisée par Jasbir Puard et qui s'inspire en fait de la notion d'homonormativité conceptualisée par Lisa Dugan et qui revenait en fait sur cette idée que l'homosexualité devenait une norme au sein de nos démocraties occidentales, que dans le contexte américain, les États-Unis seraient un exceptionnalisme au niveau sexuel par rapport à un reste du monde qui serait intolérant. Plus spécifiquement, Jasbir Puard a travaillé sur ces questions au lendemain des attentats du 11 septembre et où, en fait, certains et certaines politiques américaines, aussi monde médiatique, dépeignaient, percevaient, en fait, l'espace musulman, le Moyen-Orient, le Maghreb, comme un espace intolérant et un espace qui n'était pas favorable donc, aux droits des personnes LGBTQIA+. Par la suite, en fait, on a eu une appropriation et une redéfinition en 2013 de ce concept par Jasbir Puard qui percevait en fait qu'il y avait une inclusion dans l'agenda nativiste de certains partis de droite radicale, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, de cette posture homonationaliste.
Okay.
Et donc, l'homonationalisme crée une frontière entre un nous tolérant, qui serait, de nos perspectives européennes, défini donc à la Belgique, à l'espace occidental, face à un eux intolérant, qui renverrait donc à au-delà des frontières, à l'islam, au Moyen-Orient, et qui dépeindrait donc le musulman, le nord-africain, l'étranger comme étant intolérant envers les questions des personnes LGBTQIA+.
D'accord. Et donc, tu as déjà répondu en partie à ma question suivante, qui est, quelle est l'histoire de l'homonationalisme ? Quelle est son origine ?
Ben, je peux revenir aussi sur l'évolution de cette posture et de ces discours ici en Europe. Alors, il faut savoir que les premiers traits homonationalistes ont été aperçus aux Pays-Bas, dans le cas des partis de droite radicale, avec la liste de Pim Fortuyn, dans le début des années 2000, où en fait, on va avoir un parti d'extrême droite qui va lutter en faveur des droits des personnes LGBTQIA+, et qui va s'opposer à l'islam, et qui va donc développer son agenda nativiste en soutenant en fait la question des droits LGBTQIA+. On va avoir par la suite Geert Wilders aussi, qui est assez connu, président du parti Voor de Vrije Eid aux Pays-Bas, qui va aussi adopter la même posture par la suite, tolérante envers les personnes LGBTQIA+ et intolérante envers l'islam et les personnes étrangères. Et on va voir en fait ce discours-là se diffuser par exemple au Danemark, en Suède ou aussi chez nous, en Flandre principalement, sachant qu'en Wallonie, on n'a pas encore de parti d'extrême droite saillante, heureusement. Et voilà.
C'est effectivement hyper intéressant de comprendre comment ça s'organise et comment ça se met en place. Pourquoi ça peut paraître personnel comme question, et tu as le droit de ne pas répondre, mais pourquoi cette motivation dans cette thématique-là ? Pourquoi avoir choisi cette thématique-là qui est très, très spécifique ?
Alors, D'un côté, en fait, mes intérêts de recherche ont toujours été autour des enjeux de genre et au fil de mes lectures, que ce soit dans le cadre de mon master que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, quand ici en début de thèse, en fait, je me suis rendu compte de ces stratégies discursives qui, d'un point de vue scientifique et, si je pourrais dire, académique, me motivent à déconstruire et à analyser. Après, d'un point de vue personnel, il y a l'aspect des injustices que je rejette foncièrement et j'ai une maman qui est lesbienne et qui a été victime de discrimination. Je l'ai vu aussi quand j'étais plus petit. Et enfin, du coup, ça a toujours été un peu une motivation pour travailler sur ces questions-là, quoi.
C'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai découvert. Je ne connaissais pas en fait ce sujet et. Mais en ayant capté qu'effectivement, le discours avait quand même un peu évolué, on entendait au niveau des partis politiques. Et puis, effectivement, j'ai fait des recherches et j'ai lu certains de tes écrits et c'était, waouh, effectivement, c'est hyper intéressant, quoi. C'était bien quelqu'un en parle et on parle bien, donc voilà.
Non, mais c'est juste... on part aussi beaucoup du présupposé, en fait, que ces partis sont foncièrement et traditionnellement... homophobes, LGBTI-phobes, transphobes, dans les faits, ils le sont, on ne sait pas qu'ils ne le sont plus. Mais en fait, ils essayent de dédiaboliser leur image, de retransformer un petit peu leur stratégie politique pour paraître abordable, pour paraître plus mainstream et pour paraître moins problématique, en fait, comme vote aussi pour les électeurs. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte, et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, que ces discours plus tolérants se limitent souvent aux discours et qui viennent aussi s'entrechoquer avec des discours dissonants.
Cette tendance de certains partis d'extrême droite, justement, à l'inclusion, justement, des gays, des lesbiennes, concerne également les autres personnes des communautés LGBTQIA+, les bi, les trans et autres.
Alors, au niveau des personnes bisexuelles, je pense que le discours va être... il va y avoir souvent parfois un oubli et une concentration sur les personnes homosexuelles, mais elles vont être en général aussi couvertes de ce discours-là. Après, par contre, par rapport aux personnes transgenres, aux personnes queer, intersexes et de suite, il y a plusieurs stratégies qu'on peut observer. Alors, il peut y avoir la stratégie du silence, on ne s'exprime pas, on va concentrer les projecteurs en fait sur les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes bisexuelles. Et de l'autre côté, on peut aussi voir en fait des discours qui sont en faveur des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles, mais qui sont en opposition aux personnes transgenres. Alors ça, c'est observable aussi, par exemple, dans le cas que j'ai cité précédemment, aux Pays-Bas, où on va avoir les leaders et les cadres du Partij voor de Vrijheid, ou encore une autre figure de l'extrême droite aujourd'hui aux Pays-Bas, Thierry Baudet, qui vont aborder et avoir des postures, en fait, transphobes. En Belgique, il y a eu des cas assez isolés de soutien aux personnes, de leur bouche, hein, de soutien aux personnes LGBT, et du coup, donc le T des personnes, qui représentent les personnes transgenres, de la part des leaders d'extrême droite. Mais dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et par exemple, on peut aussi peut-être en parler, voilà, de tous ces discours sur l'idéologie de genre qui sont portés par les mouvements anti-genre, dont les partis d'extrême droite font également partie, s'opposent explicitement aux personnes transgenres, avec en fait cette idée que les identités de genre n'existent pas. Enfin, les identités de genre sont celles de l'homme, de la femme, et qu'il n'y a rien d'autre, par exemple. Et donc, en fait, il y a ces discours qui peuvent être assez dissonants. Donc, pour résumer, oui, soit la stratégie du silence, soit une opposition claire envers les personnes transgenres, queer et intersexes. Même si, par exemple, aussi le cas des personnes intersexes, c'est intéressant parce que elles sont jamais en fait citées ou mobilisées par les partis d'extrême droite. Mais quand on analyse leur programme, leur posture politique, ces partis sont foncièrement contre ces personnes.
Ok. Et est-ce que justement les personnes LGBTQIA+ sont conscientes de ce qui se passe, de ces stratagèmes, j'ai envie de dire, stratégies de récupération d'un côté ou pas
Bon, moi, en tant qu'hétérocis, je vais pas faire des généralités pour les personnes LGBTQIA+, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà ici, par exemple, si on observe le cas de la Belgique francophone, la société civile, et notamment vous, par exemple, vous êtes consciente de cette problématique et de ces stratégies-là, en fait, qui sont mises en avant par la droite radicale. Donc, si on parle en termes d'individus ou en termes de votants, si on reste dans le domaine de la science politique, de citoyens, oui, il y a une... Il y a quand même une conscientisation et les personnes ne sont pas dupes. Après, il y a des personnes qui en sont aussi conscientes, mais qui vont pas voir réellement le problème en fait de suivre les partis d'extrême droite, de droite radicale dans ces questions-là. C'est difficile en fait en sciences politiques, quand on fait des recherches quantitatives sur les comportements électoraux, d'isoler le sexe ou l'identité de genre, enfin l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et donc c'est difficile de tirer des conclusions claires par rapport à votre question. Mais ce qu'on peut voir, c'est que plus largement, on va avoir aujourd'hui des personnes hétéros ou non hétéros qui vont en fait... se retrouver en fait dans les programmes des partis de droite radicale qui sont progressistes sur papier envers les personnes LGBTQIA+, mais qui sont en défaveur et qui renforcent un peu l'agenda nativiste de ces partis. Donc il y a par exemple une étude de Lancaster qui avait été menée en 2020, enfin un papier, où il distinguait en fait au sein des électeurs des partis de droite radicale les sexual modern nativists par rapport aux traditionnels nativistes et un entre-deux. Et les sexual modern nativists, en fait, ça représente en fait une part des électeurs qui sont... contre l'immigration, contre l'islam, contre toutes les questions migratoires, mais qui sont enclins en fait à soutenir une évolution des droits des personnes LGBTQIA+. Et du coup, au final, ce qu'on peut voir, c'est que au sein des votants des partis de droite radicale, on ne va plus avoir que des franges foncièrement homophobes et intolérantes, et des gens qui vont voter pour ces partis en soutenant en fait cet agenda, on va dire, progressiste et ces discours progressistes. Et en fait, ce qui a aussi été observé, c'est que cette frange prend graduellement en fait de plus en plus de place au sein des électeurs des partis de droite radicale. Après, ce qui peut aussi, si on reste sur cette question des votants des partis de droite radicale, c'est qu'il y a aussi une certaine forme de polarisation où on a des gens qui vont être de plus en plus intolérants et qui vont l'exprimer, qui vont être de manière décomplexée, de plus en plus anti-LGBTQIA+, et qui ne vont pas avoir de problème à soutenir les partis de droite radicale sur leurs ailes les plus... Enfin, sur leurs programmes les plus radicaux et anti-genre, par exemple.
Romain, encore une question. Cette stratégie pour attirer un électorat gay et lesbien, elle se remarque uniquement en Europe ou c'est... y a ailleurs dans le monde, on remarque ce type de stratégie?
Alors... c'est même en Europe, en fait, il faut nuancer. Et j'ai peut-être du coup retourné la question dans ce sens-là, où en fait on voit des stratégies homonationalistes dans certains cas, comme je l'ai cité précédemment, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, en Belgique néerlandophone, dans une moindre mesure aussi en Belgique francophone. Ça pourrait gagner aussi en intensité par la suite. En France aussi, où on a Marine Le Pen aussi qui n'hésite pas dans ses discours à dire qu'elle soutient les personnes homosexuelles contre les jeunes de cité. Enfin, mm-hmm. Pour résumer son propos de manière assez vulgarisée. Mais après, en fait, quand on élargit la focale à d'autres pays européens, comme l'Italie ou comme les pays d'Europe centrale et orientale, en fait, on voit que les discours homonationalistes ne sont pas si présents parce que l'acceptation aussi des personnes LGBTQIA+, est différente au sein de la population, parce que les partis ne considèrent pas cela comme une... Enfin, les partis de droite radicale ne considèrent pas cela comme des stratégies intéressantes. Et au final, en fait, quand, par exemple, on regarde les discours de la Lega ou de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, c'est difficile, en fait, de trouver des éléments homonationalistes parce qu'en fait, elles s'opposent littéralement aux personnes LGBTQIA+, et de manière assez décontenancée. Quand après maintenant on se dirige vers l'Europe centrale et orientale, c'est difficile en fait d'aller en Hongrie par exemple d'avoir un discours homonationaliste quand on fait passer, enfin en tant que là c'est pas un parti, on pourrait le considérer comme parti d'extrême droite, il se considère pas comme parti d'extrême droite mais comme parti conservateur. Le Fidesz de Viktor Orban fait passer des référendums en fait pour interdire l'idéologie LGBTQIA+. Là, c'est difficile aussi de voir un discours homonationaliste dans la bouche de ces leaders-là. Après, il faut faire aussi attention à ne pas tomber dans de l'homonationalisme qui est du coup de tracer une frontière entre le « nous tolérant » et le « eux intolérant ». Parce que si on élargit la focale aussi, par exemple, à l'évolution des droits LGBT en Europe, on va voir qu'en fait, il y a eu des postures homonationalistes en fait des États européens vers les États candidats. Ça s'est vu dans le cas par exemple de la Croatie. On a pu percevoir, j'ai travaillé sur ce cas-là, des tendances homonationalistes en fait de certains leaders européens qui considéraient que les régions, par exemple la région des Balkans, était une région intolérante et sous-développée et qu'elle ne méritait pas d'adhérer à l'Union européenne. Donc je ne vais pas tomber dans le piège de l'homonationalisme et dire qu'il y a des espaces qui sont foncièrement intolérants pour les personnes LGBT LGBTQIA+ en Europe ou ailleurs, mais il s'avère que oui, en fait, en fonction du degré de tolérance, de la visibilité des personnes LGBTQIA+ dans ces pays-là, le discours des partis de droite radicale peut évoluer. Et donc, les stratégies homonationalistes des partis de droite radicale s'observent principalement dans certains pays d'Europe occidentale. Après, si on élargit encore plus la focale au niveau mondial et pour répondre à ta question de base, il peut y avoir, moi je ne travaille pas sur ces questions-là, mais bon, Jasbir Puar, Lisa Dugan, toutes ces personnes dans la recherche ont travaillé sur ces questions-là dans le cadre américain, donc on peut observer de l'émotionnalisme aussi aux États-Unis. Mais après, oui, je pense que ça serait difficilement observable dans d'autres cas. C'est quand même des discours qui sont limités à un certain nombre de cas, des cas qui sont proches de nous, donc des cas qu'on étudie. Et il faut aussi dire que la posture homonationaliste des partis de droite radicale n'est pas homogène et qu'elle va évoluer en fonction des cas, des contextes et ainsi de suite. Et aussi, du coup, comme je l'ai dit précédemment, des contextes nationaux où on peut avoir, par exemple, des postures, une visibilité plus importante, une évolution législative qui est plus ancienne et du coup une acceptation plus large au sein de la population et du coup qui, là, par exemple, peut favoriser un discours homonationaliste.
Est-ce que cette posture homonationaliste au sein des partis peut créer des tensions internes entre des personnes plus conservatrices et d'autres plus progressistes, entre guillemets ?
Alors, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je travaille sur comment en fait, les enjeux de genre structurent la compétition politique au sein des systèmes politiques, entre partis, mais aussi au sein des partis politiques. Et donc là, j'ai encore 5 ans, vu que je suis assistant doctorant, pour étudier sur ce sujet-là. Et ça va être une de mes recherches, de voir en fait, quelles sont les dynamiques autour des enjeux de genre, et notamment autour des droits des personnes LGBTQIA+, au sein des partis politiques, et comment en fait, les postures se négocient. Dans les faits, en préparation de l'émission, j'ai fait des recherches par rapport à cela et il n'y a aucune recherche, à ma connaissance, qui a été menée sur les dynamiques qui peuvent exister au sein des partis politiques autour de ces questions des dissensions ou pas. Après, on peut partir du postulat en prenant quelques exemples que... probablement en fait que les partis ou les membres de partis qui adoptent des discours homonationalistes ne font pas consensus dans certains cas. Je prends le cas par exemple du mouvement réformateur qui est un parti qui a légiféré pour la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, qui aujourd'hui a des positions assez ambiguës sur les questions du wokisme et ainsi de suite, qui brouille un petit peu les pistes. Mais on a des élus qui sont foncièrement pour l'évolution de la situation des personnes LGBTQIA+ au sein de ce parti-là, mais en contrepartie, on a aussi des personnes qui sont aussi pour cela, mais qui vont utiliser des discours homonationalistes. Alors, je prends l'exemple de la très connue Nadia Gertz, qui j'ai parcouru son blog avant l'émission et pour voir en fait si elle adoptait des discours homonationalistes. Et j'ai trouvé deux extraits qui paraissent assez parlants. Le premier extrait qui parle donc de. Il y a eu quelques mois ce débat autour des passages pour piétons en couleur de l'arc-en-ciel avec Benoît Sérex qui s'y était opposé à Olivier Saint-Pierre, donc Benoît Sérex CDH. Et ici, en fait, Nadia Gertz, en répondant à cette question d'actualité, franchement, je la cite, hein. Franchement, croit-on vraiment que c'est en repeignant tous les passages cloutés de Genk aux couleurs de l'arc-en-ciel qu'on ferait admettre à ces jeunes perturbateurs musulmans que leur conviction religieuse n'est pas la vérité, mais seulement leur opinion, qui n'a aucun droit à s'imposer aux autres, car nous sommes dans un état de droit et non dans une théocratie, point d'interrogation. Donc là, on voit quand même qu'elle lit un débat qui n'est pas spécialement lié, en fait, aux personnes musulmanes, le lit, en fait, à une autre polémique qui avait lieu dans une école à Genk, et aussi un extrait du rapport sur le wokisme qui est paru il n'y a pas longtemps, et du coup, comme je l'ai dit, qui brouille un petit peu les pistes au niveau du MR. Car le wokisme, en réalité, est d'abord et avant tout une idéologie de la repentance. Il ne s'agit pas, s'agissant de dépeindre les rapports sociaux, d'analyser qui opprime qui, en toute objectivité, mais pour les dominants, de reconnaître leurs torts, et il ne saurait donc être question de parler des femmes violentes, des musulmans homophobes ou de noirs riches. Donc là aussi, elle fait un lien homonationaliste entre musulmans qui seraient homophobes. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants dans cet extrait, mais qui ne font pas partie du sujet de l'émission. Après aussi, pour parler en fait des partis les plus homonationalistes, on va dire en Belgique, le Vlaams Belang, j'ai quelques extraits ici qui sont issus de leur site internet. Encore une fois, la violence anti-gay à Bruxelles, identifier et s'attaquer aux problèmes multiculturels, donc ici qui vise le multiculturalisme, qui serait donc un problème pour les personnes gays. Sommers affirme, donc Sommers, bourgmestre de Malines, Sommers affirme se lever contre l'homophobie, mais c'est son parti qui importe l'homophobie de l'étranger. À savoir que, bon, ils avaient les manettes à ce moment-là au niveau de la migration, et du coup, qui font un lien entre homophobie et questions migratoires. Un petit dernier pour la route, le Vlaams Belang soumet des propositions pour une approche plus décisive de l'homophobie. Quiconque est gay doit à nouveau se sentir en sécurité partout. Là, on a un lien qui est fait avec l'agenda sécuritaire, et on sait que l'agenda sécuritaire du Vlaams Belang est souvent en lien avec son agenda anti-migratoire et nativiste. Donc là, ici, en fait, on a un discours qui est foncièrement homonationaliste, mais on ne va pas avoir des oppositions à ce discours-là, des critiques de ce discours-là au sein du parti, mais des discours dissonants avec des actes en fait, homophobes. Par exemple, on avait jusqu'à pas très longtemps Dries Van Langenhove qui faisait partie du Vlaams Belang et qui faisait partie en fait, de mouvements, de mouvements complètement anti-genre, anti-LGBTQIA+, et qui, il n'y a pas longtemps, était aussi enlevé des drapeaux arc-en-ciel. Je pense que c'était à Bruges, en s'expliquant vouloir lutter contre une idéologie. On a des discours qui sont dissonants, encore plus à droite, et qui sont critiques envers la posture homonationaliste en disant non, soyons homophobes, soyons LGBTQIA-phobes. Et de l'autre côté, des discours, en fait, des critiques... on va dire de la gauche, plus à gauche que le discours homonationaliste, ça veut dire qui critiquerait en fait la posture anti-migratoire, on n'en voit pas vraiment. Il y a un autre parti qui utilise des stratégies homonationalistes en Belgique, c'est la NVA, notamment avec Zuhal Demir, qui a aussi eu à un moment en fait l'égalité des chances dans ses compétences, et qui a sous-entendu en fait vouloir lutter pour une meilleure protection des personnes LGBTQIA+. Face à la diversité, et que la diversité devait accepter en fait les personnes LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire la diversité une fois de plus, ça fait des liens, voilà. On n'a pas vu vraiment de critique au sein de ce parti, parce que ce parti-là aussi a une posture en fait anti-migratoire et nativiste, donc personne ne va aller illégitimer ce discours-là homonationaliste. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est vu la récupération en fait, de ces stratégies-là du côté francophone par des partis qui sont considérés comme plus tolérants, moins nativistes et moins anti-migration, c'est qu'on pourrait voir en fait, des oppositions à ces discours-là. Mais de mon point de vue de jeune observateur politologue, j'en ai pas encore vu explicitement de ce côté-ci, non.
Ok.
Et quels sont les effets en fait réels sur l'électorat de son homonationalisme. Est-ce que ça a un effet, un impact ?
Sur l'électorat, vous voulez dire sur les résultats électoraux des partis ?
Oui, exactement. Ça change la donne ?
Alors, il y a une recherche qui avait été menée par Spierings, Lubbers et Zaslove, donc des chercheurs hollandais, par rapport à cette question-là de est-ce qu'il existe un vote homonationaliste ? Et en fait, il a été observé que dans certains cas, il en existe. Je pense que ça avait été la Suisse, la Suède, où on voyait en fait... ils ont su en fait isoler un vote homonationaliste et prouver qu'en fait il y avait un vote homonationaliste qui s'exprimait et du coup qu'en fait les stratégies des partis de droite radicale portaient leurs fruits. Alors qu'ici, que ce soit dans le cas hollandais ou en Belgique néerlandophone, c'est plus flou et ils n'ont pas su le mettre en exergue explicitement, enfin un vote foncièrement homonationaliste, et ça peut aussi être lié en fait à des questions sociétales où, en fait, l'acceptation des personnes LGBTQIA+, est d'une certaine manière socialement acceptée depuis plus longtemps. On a été des premiers pays à légiférer sur ces questions-là. Et du coup, c'est difficile, en fait, d'isoler un vote homonationaliste parce que la question des droits des personnes LGBTQIA+, et une fois de plus, j'insiste bien sur les lettres LGB, sont ancrés en fait dans les droits humains qui sont inviolables et qu'on pourrait pas remettre en question. Et du coup, en fait, c'est difficile de se dire, tiens, est-ce que les stratégies des partis de droite radicale aujourd'hui et leur posture homonationaliste attirent des personnes qui seraient attirées par ce vote homonationaliste ou pas? C'est difficile, en fait, de le démontrer ici dans les cas belges-hollandais, mais ça l'a été dans certains cas. Donc on peut hypothétiser que oui, le vote homonationaliste, enfin les postures et discours homonationalistes font découler un vote homonationaliste, peut-être plus prononcé dans certains contextes nationaux que d'autres, mais que du coup il a un impact aussi sur les électorats. Et une fois de plus aussi, ça c'est un élément intéressant, c'est que comme j'ai dit précédemment, le discours homonationaliste il permet aussi de dédiaboliser en fait les partis de droite radicale. Les partis de droite radicale en fait sont toujours foncièrement anti-immigration, c'est le cœur en fait de leur stratégie politique, et vont faire certaines concessions pour en fait, par exemple sur les questions des droits LGBTQIA+, mais aussi les droits des femmes, le gender mainstreaming et tout ça, pour en fait paraître plus convenable et moins problématique. Ça veut dire que si moi, jeune électeur quand même assez à droite, je me pose la question, leur discours est dédiabolisé, je vais peut-être voter pour eux. Quand j'irai dans mon dîner de famille où la famille est plus au centre ou à gauche, ce sera peut-être plus convenable, ce sera moins problématique de dire aujourd'hui, je vote pour un parti droite radical qu'avant. Et ça, plus largement, en fait, ça a aussi lien avec cette idée que les partis de droite radicale et d'extrême droite se mainstreamisent et deviennent de plus en plus en fait acceptables dans l'espace politique.
Oui, surtout en Flandre, pour la Belgique, parce que vous l'avez dit, du côté francophone, c'est pas tout à fait ça. On peut le voir en France, on peut le voir dans d'autres pays également. Donc c'est en effet, c'est comment lisser et rendre un parti politique avec certaines idées plus attrayant d'une certaine manière. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que justement le mouvement queer, parce que c'est pas l'identité queer, le mouvement queer, ce n'est pas antinomique justement avec le mononationalisme et la récupération en fait des partis politiques. Est-ce que vous en pensez quoi?
Antinomique.
Dans le sens que toutes les personnes, beaucoup de personnes au niveau des communautés queer en quelque sorte, sont un peu anticapitalistes. Il y a un positionnement politique, souvent se reconnaissant dans cette identité qui est multiple et complexe. Je ne vais pas faire toute la définition ici parce qu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et donc, sont un petit peu, en opposition avec la politique, une politique surtout de droite, donc de surconsommation, de globalisation, de capitalisme et ce genre de choses. Est-ce que ce n'est pas justement un peu étonnant ou rigolo de voir certains partis qui pourraient essayer de ramener cet électorat-là alors que, qu'en quelque sorte, en s'identifiant en tant que queer, souvent on est en opposition?
Écoutez, oui, je pense. Et de toute façon, comme je l'ai dit de base, et c'est un peu les présupposés de tout le monde, et Quand on décortique, en fait, dans leur ensemble, les stratégies des partis de droite radicale par rapport aux personnes LGBTQIA+, c'est contre nature, en fait, d'être une personne non cis et de voter pour un parti qui ne vous accepte pas, qui ne vous respecte pas en tant que tel, qui ne vous reconnaît pas comme faisant partie du corps de la nation, même si le corps national à défendre, même si ils le sous-entendent. Donc je pense que, comme j'ai dit une fois de plus, il faut bien insister que l'homonationalisme concerne les personnes LGB et je ne sais pas s'il est vraiment à destination en fait, des personnes queer qui sont, comme vous l'avez dit, naturellement et foncièrement politiquement opposées à un projet d'hétéropatriarcat, de droite et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si on pourrait voir un discours à destination, ce discours-là émerger après. Ce qui est intéressant, c'est, et ça je reprends un de mes cas de recherche, le cas espagnol, où il y a un discours homonationaliste qui existe, mais il y a aussi un discours bien plus dissonant anti-genre et anti-LGBTQIA+ qui existe. Mais dans leur stratégie homonationaliste, ils incitent les personnes homosexuels, bisexuels, lesbiennes, trans, queer, en fait, sans peut-être connaître la définition de quelles sont les personnes queer, je dis pas le contraire, mais les incite en fait à aller au-delà des idéologies et à sortir du joug qui serait imposé par les mouvements féministes, par les lobbies LGBT, je reprends leurs mots, et par tous les mouvements progressistes et de gauche. Donc en fait, il y a un appel du pied qui est fait pour les appeler à l'émancipation et à les rejoindre, mais je ne sais pas si cet appel du pied est foncièrement efficace, notamment par exemple aux personnes qui se considèrent comme queer et qui donc, selon je pense la plupart des définitions qui existent du mouvement, sont diamétralement opposées à la posture des partis de droite radicale.
Et petite question, on a déjà parlé, mais est-ce que justement cette communauté gay et lesbienne ou bisexuelle se laisse-t-elle séduire par ces discours d'inclusion, de manière générale?
Alors, une fois de plus, c'est difficile de faire des généralités, mais c'est sûr qu'en fait, il y a des personnes qui sont harponnées par ces discours, qui sont attirées par ces discours, et c'est pour ça que ces discours aussi existent. Ils étaient complètement inefficaces et qui n'attiraient personne de la communauté LGB. Enfin, parce que ce discours-là est dirigé aussi vers les personnes, au-delà, vers les personnes qui ne font pas partie ou qui ne se reconnaissent pas comme personnes LGBTQIA+. Mais il y a aussi cette stratégie d'attirer des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles. Donc, il y a des gens qui tombent dans ces discours-là et qui peuvent adhérer à ces partis. On peut le voir dans ces partis, voir l'inclusion des personnes en fait qui ont fait leur coming out, qui sortent du placard et qui utilisent aussi cette carte en fait je me considère comme gay pour renforcer le discours homonationaliste de ces partis-là.
Oui, d'inclusion, en fait.
Voilà, c'est ça. Il y avait un député, j'ai oublié son nom, Ovlan Vlan, qui l'avait fait. Il y a des cas à la NVA. Il y avait aussi le cas c'était Florian Philippot, en France, qui, à un moment, avait rejoint le Front National à l'époque, et maintenant, aujourd'hui, Rassemblement National, et qui, aujourd'hui, fait un peu Free Driver, sa petite mouvance d'extrême droite, mais qui joue aussi sur sa carte de je suis une personne gay et donc il faut lutter contre les obscurantismes venus de l'islam, de la migration, qui mettent à mal et en péril en fait les acquis des personnes LGB.
Ok. J'ai une dernière question. Je ne sais pas si toi tu en as encore, Valérie.
Non. Ouais, pas de mon côté, non.
L'année prochaine, il y a des élections. Vous croyez que les discours vont être comment?
Écoutez, je pense qu'on est avec la loi Evras, par exemple, et on est bien parti avec les débats sur le wokisme. On est bien parti. En sciences politiques, on fait pas la prédiction, mais je pense que ça va être intéressant en fait de se concentrer sur les discours nationalistes en Belgique et cette fois-ci peut-être pas que du côté néerlandophone. Où là, ils font partie du paysage politique et du paysage médiatique, mais où ils pourraient aussi faire leur entrée, enfin dans le cadre de cette période électorale-ci, leur entrée dans le contexte francophone. Donc il faudra être attentif, il faudra regarder comment ces discours sont repris, ces discours évoluent, ces discours se construisent. Et oui, on peut... Enfin, on va pas faire Madame Irma, mais probablement que les discours homonationalistes feront partie, peut-être d'une manière très importante ou moins importante, je sais pas, mais feront partie des discours des partis politiques à droite lors de la campagne électorale qui arrive.
Ok.
En tout cas, on pourra être attentif et attentive à tout ça maintenant qu'on a le décodeur quelque part. On sait que ça existe et on va l'observer, quoi. Mm-hmm. Ouais.
Mais moi, je voulais dire un grand merci pour votre intervention et nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas toujours évident. Donc, merci beaucoup, Romain. Merci à toi, Valérie.
Merci à vous deux.
Et merci à vous pour l'invitation.
Avec plaisir.
Et une bonne soirée.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Orcase, une émission LGBT. De l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.